Marie Balmary, vous êtes connue par vos nombreux livres, des livres sur des textes fondateurs de la Bible. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que vous avez écrit une thèse et cette thèse n'a pas été accueillie. Et c'est une thèse dont le sujet est la prise de conscience. Mmh. Est-ce que l'on peut dire que finalement ce sujet vous a suivi jusqu'à aujourd'hui ?
Tout à fait. Peut-être que si on l'avait accepté, je l'aurais abandonné, ce sujet. Mais en tout cas, je crois que c'est le fil rouge de ma recherche. C'est le devenir conscient, s'éveiller à la conscience. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus dans mon métier. Mais c'est là-dessus qu'est fondée la psychanalyse. Donc, en soi, ça n'est pas étonnant. On disait, quand j'étais jeune psychologue, que l'efficacité de la psychanalyse était mystérieuse. La raison de son efficacité, c'était la prise de conscience. Donc voilà, je voulais comprendre ce qui était efficace dans la psychanalyse, ce qui faisait qu'on pouvait aller vraiment tellement mieux.
La prise de conscience, c'est un éveil ?
Dans mon esprit, oui. Il y a le mot prise, mais c'est un éveil. Un jour, à un moment, on réalise, comme on dit, j'ai réalisé que cette chose que je vivais comme ci, comme ci, comme ça, était en fait une mémoire douloureuse dans ma vie ou quelque chose comme ça. Je crois que nous savons tous ce que c'est que de prendre conscience. On n'a pas toujours besoin des psychanalystes, heureusement, pour ça. Et c'est un grand passage à chaque fois. Et l'éveil du sujet, l'éveil de la personne, ça change tellement la vie que vraiment ça vaut la peine, je trouve. Enfin, pour moi, j'ai trouvé passionnant de me lancer dans cette recherche et dans ce métier.
Alors, vous avez étudié très profondément, et vous le continuez, des textes fondateurs dans la Bible. Quel est le rapport ? Est-ce que vous avez un rapport entre cette étude et les prises de conscience ? Vous avez trouvé dans la Bible des gens qui ont pris conscience de façon très très intense ?
Oui, je pourrais dire cela. Je crois que le premier texte sur lequel je suis vraiment tombée, si on peut dire, parce qu'il me paraissait éventuellement très mortifère, c'était le sacrifice d'Abraham. Et il y a beaucoup de façons de le lire, mais ça ressemblait beaucoup pour moi à quelqu'un qui prend conscience de à quoi il croyait avant. Il croyait que Dieu allait lui demander son fils. Et au bout de 3 jours, alors... C'est raconté comme la voix divine lui parle, mais d'où est-ce qu'elle vient cette voix divine ? Quand les gens se mettent à croire à autre chose, à une autre... Mais je suis frappée de ça, qu'il met 3 jours à changer de Dieu et à entendre ce que toute conscience de père pourrait dire, ne fait aucun mal à l'enfant. Or, pendant 3 jours, il n'a pas entendu cette parole-là. Il a entendu une voix qui s'appelle Elohim, c'est-à-dire, ça peut être tous les dieux d'un certain sens, c'est un pluriel, qui lui demandait, croyait-il, d'immoler son fils. Et puis, au bout de 3 jours, il entend autre chose. Il entend l'ange d'Adonai qui lui dit « ne fais aucun mal à l'enfant », qu'il arrête. Et ça, ce mouvement-là profond, qui fait qu'un quelqu'un cesse d'obéir à un ordre mortifère et prend conscience de ce qu'il ressent et de ce qu'il croit, et de ce qui est favorable à la vie, ça, c'est un éveil extraordinaire. Je pense que c'est une des histoires les plus importantes dans l'histoire du monde.
Mais finalement, la parole qui est dans la Bible, la parole que Dieu nous donne dans la Bible, est-ce que ce n'est pas une parole justement où il nous engendre, où il nous fait naître à nous-mêmes ? Puisque vous le dites vous-même, je crois, Genèse 12, quand le Seigneur dit à Abraham « pars », en fait, pars vers toi-même.
Oui, et c'est là qu'on voit la différence entre une idole et ce Dieu mystérieux de la Bible. L'idole dirait plutôt « viens vers moi ». Et quelle est cette voix qui dit « va vers toi-même, va pour toi-même » ? C'est le contraire, évidemment, c'est un mouvement tellement autre. Et d'ailleurs, cette parole, elle va lui être redite au moment où il entend qu'on lui demande son fils. Il y a des germes à chaque fois. L'homme n'est pas pris dans l'idolâtrie. Dans la Bible, c'est ça qui est étonnant. Il commence par être idolâtre. Ce n'est pas un texte où tout est beau et tout est rose. C'est un texte de métamorphose.
Vous employez le mot métamorphose. métamorphose, transformation.
Oui.
Il y a un lien entre la prise de conscience, l'éveil, la transformation et la métamorphose.
Oui, oui, tout ça, ce sont quatre mots pour dire sans doute la même chose. Les mots sont souvent trop petits et ceux-là ne font pas exception à la règle. Mais c'est là qu'on voit que ce n'est pas, la prise de conscience, ce n'est pas intellectuel. Parce que l'intellectuel ne fait pas de métamorphose. C'est un mouvement profond d'un être, cœur et esprit à la fois, qui peut engendrer une métamorphose. Alors, quelle est cette parole qui vient et que l'homme entend à son heure, parce que ça ne peut pas se décider comme ça, par décret ou se scolariser comme on apprend 2 et 2 font 4. À son heure de croissance, à son heure de relation, il va entendre quelque chose d'autre que ce qui l'a servi, que ce qui l'empêche d'être lui-même.
Dans tout votre chemin, Marie Balmary, quels ont été les points justement qui pour vous ont été comme des tremplins de métamorphose? Est-ce qu'il y a eu des passages que vous pouvez nous partager?
D'abord, il y a eu ma propre analyse, j'en dirai pas plus, mais évidemment, ça a été le premier grand passage dans cette voie-là. Il y a aussi, si nous revenons à la Bible, il y a eu des rencontres. Alors, il y a eu celle du texte d'Abraham, lu en hébreu, où j'ai vu que Dieu ne lui demande pas de sacrifier son fils. C'est un mot hébreu qui peut vouloir dire « élevé ». Alors, ces mots-là sont à double sens et permettent de passer d'un état à l'autre, ce qui est quand même remarquable.
Il me semble que la psychanalyse, elle nous amène à découvrir qui on est, plus profondément. Mais parfois, il y a une étape qui demande, qui permettrait encore une guérison peut-être plus profonde, qui est celle de l'amitié, celle d'être accueilli, d'être aimé comme on est.
Et je crois que rien ne se passerait en psychanalyse, comme me disait une collègue quand j'étais toute jeune analyste et encore en analyse, elle me disait « si tu ne te sens pas reconnue et aimée par ton analyste, change-en ». Et ça m'avait bien réveillée, je m'étais dit « ah bon ». Mais Freud le dit quelque part que c'est l'amour qui guérit, il a pris ça chez Platon, ça c'est tout à fait important. Mais je crois que le mot « conscience » lui-même, m'a enchantée quand j'ai trouvé l'étymologie « cum sire », savoir avec l'autre. L'inconscient, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce qu'on sait sans avoir pu le savoir avec quelqu'un d'autre. Parce que l'autre n'était pas au rendez-vous, parce que l'autre ne voulait rien en entendre. Il y a un statut très bizarre des choses que nous savons tout seuls. La conscience s'éveille quand il y a une relation de conscience. Et je trouve ça très merveilleux, moi, cette étymologie. Savoir avec l'autre, puis savoir avec soi-même. Ce sont les deux sens en latin, en grec, enfin, dans beaucoup de langues.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, une chose que je souhaite, c'est que, croyant ou pas croyant, nous ayons accès à des textes comme ça. Parce qu'il me semble qu'ils permettent, évidemment si on a un accès assez juste, ils permettent de mettre le langage en place, de mettre la parole en place, de mettre les différences en place, de sortir de la confusion. Ça permet de sentir, par exemple, qu'être serviteur et être fils, c'est pas pareil. Et de pouvoir le penser. Ça autorise à penser des choses comme aussi importantes que ça. Par exemple, il y a plusieurs paraboles qui parlent de ça, de ce passage de l'un à l'autre, ou de cette incompréhension momentanée, ou de ce blocage dans le genre le fils aîné de l'enfant prodigue, ou le troisième serviteur de la parabole des talents. Et ça nous parle. On comprend qu'on peut être bloqué dans un statut de créature qui a reçu un don. On est dans la culpabilité, on est dans la honte, on est dans plein de choses qui se soignent dans les cabinets d'analystes. Alors c'est pour ça que ça nous paraît très important.
Est-ce qu'on peut dire finalement, je peux le poser à une psychanalyste, l'évangile de Jean serait l'évangile de la prise de conscience?
Ah ouais, ça je signe à tous les coups.
Merci Marie Balmary.